Session de théologie à Rimont, Dieu des philosophes et Dieu des chrétiens. 9e conférence par le Père Samuel, le 24 octobre 1993.
Alors avant de regarder dans l'Évangile la manière dont Jésus lui-même nous introduit dans le mystère de Dieu, je pense que c'est bon de dégager les deux grands axes de l'Ancien Testament sur la révélation de Dieu. La première, on l'a vu, c'est le thème de l'alliance, donc avec Abraham. Une alliance qui est d'abord dans la confiance, dans l'abandon. Cette alliance qui implique une promesse. Mais c'est très beau, Dieu ne promet pas quelque chose sans réclamer de la part de celui auquel il promet qu'il vive d'une alliance dans la confiance. Cette promesse et cette alliance, elle apparaît avec Moïse liée à une mission. Ce qui se développera aussi jusque dans Isaïe, c'est qu'au fond, le peuple d'Israël a une mission. Et cette mission, on l'a vu, elle est liée à la révélation du « Je suis » de Dieu. C'est-à-dire que l'homme a besoin que Dieu lui révèle, se donne à contempler à son intelligence, puisque c'est ça, révéler qu'il est. L'homme a besoin que Dieu se révèle comme objet de contemplation pour son intelligence, pour devenir capable de le suivre dans la mission qu'il lui confie. Ça veut dire en clair, si vous voulez, que si l'exercice de la foi n'est pas contemplatif, c'est-à-dire si dans ma foi, je ne cherche pas à savoir qui est Dieu, et si je ne reçois pas dans ma foi Dieu qui me dit « je suis », je ne peux pas pleinement vivre de sa mission. C'est ça que Dieu révèle au peuple d'Israël à travers Moïse. Alors, ce qui est très beau, c'est de voir que, évidemment, ce thème de l'alliance, la manière dont Dieu se révèle comme celui qui s'engage auprès de l'homme et qui veut engager l'homme auprès de lui, je vous l'ai dit, se manifeste jusque dans la vocation du peuple d'Israël à la gloire, à ce qui s'appelle la Jérusalem de gloire. C'est la figure de Jérusalem, si vous voulez. La terre promise, à ce moment-là, avec Abraham, la terre promise, c'est encore une terre de la terre, quoi, une terre physique. À partir des prophètes, à partir du moment où le peuple d'Israël est dans la terre promise, la nouvelle terre promise, c'est la Jérusalem céleste. Et la grande bagarre de Dieu contre son peuple, ça sera de l'empêcher d'identifier la Jérusalem de gloire à la Jérusalem de la terre et au temple. D'accord ? Ça, c'est le grand combat des prophètes. C'est de dire au peuple d'Israël, vous n'êtes pas arrivé dans la terre promise. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a l'exil. Pour bien lui faire comprendre qu'il n'est pas arrivé sur la terre promise. Cette terre promise, elle n'est pas encore celle qu'il doit posséder. Elle n'est que le signe de la terre à venir. Ce que dit très très bien l'Épître aux Hébreux. Mais c'est très important de voir qu'au fond, Dieu, dans cette alliance, respecte une pédagogie. Et que, alors parallèlement, il y a une révélation de son mystère qui s'approfondit. Notamment, on va le voir dans les livres de sagesse. Dieu ne se révèle pas simplement comme celui qui est. Il révèle qu'il est sagesse. Et il y a ce très très beau texte, ce très grand texte, qui au fond qui est une contemplation du mystère de Dieu, une contemplation révélée du mystère de Dieu, dans la sagesse, au chapitre 8. « 7 et 8. Déjà en 7, 22. Enfin, faut relire tout. Je ne vais pas vous relire tout le livre de la sagesse. Tout, enfin, tous les passages où Salomon parle de la sagesse. Quand Salomon parle de la sagesse, il ne parle pas de la sagesse simplement de l'homme. Il parle de la sagesse de Dieu. Et il veut montrer comment la sagesse est une avec Dieu. Je vous lis ce passage. Hein. Au verset 25. Donc, ça s'est précédé de cette grande énumération des qualités de la sagesse. Elle est en effet un esprit intelligent, saint, unique, subtil, agile, pénétrant, sans souillure, clair, impassible, ami du bien, acéré, incoercible, bienfaisant, ami des humains. Oui, il ne s'agit pas de la sagesse humaine, c'est clair. Constant, ferme, sans souci, qui peut tout, surveille tout, pénètre tous les esprits, les intelligents, les purs, les plus subtils. Car plus que tout mouvement, la sagesse est mobile. Très étonnant, c'est une toute autre démarche que la philosophie. La sagesse, c'est traduit peut-être autrement. Non ? La sagesse est mobile, elle traverse et pénètre tout grâce à sa pureté. Elle est un souffle de la puissance divine, une effusion toute pure de la gloire du Tout-Puissant. Aussi rien de souillé ne pénètre en elle. Elle est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache de l'activité de Dieu, une image de son excellence. Donc vous voyez, vous avez dans l'Ancien Testament la contemplation théologique, si vous voulez, la plus poussée qui soit, elle est là. Elle est dans ce livre de la sagesse. Où, après avoir affirmé, vous voyez, la transcendance de Dieu, qui doit être adorée dans son unité, dans son unicité, Dieu est l'unique, et il n'y en a point d'autre. Le livre de la sagesse va plus loin, et essaye de comprendre comment est-ce que l'ordre de la sagesse divine, et comment l'ordre de la création et l'ordre de la providence existent en Dieu. Ça, c'est la question. Ou si vous voulez, comment je suis, le mystère de Dieu dans son être, contemple en même temps qu'il crée. C'est ça la question de la sagesse. Et c'est très très beau, vous voyez, au fond, d'avoir découvert que ça repose sur une confiance très fondamentale dans l'homme. Hein, que dans l'homme, ce qui est le plus proche de Dieu, en dehors de l'être, c'est la sagesse. Donc vous voyez, l'Écriture me révèle deux voies d'accès à Dieu. Ou trois voies d'accès. L'une qui est celle de la confiance. Ça, c'est la voie d'accès par l'alliance. C'est une voie d'accès qui ne dit rien à mon intelligence. Mais qui la dispose à recevoir ce que Dieu me dit. Parce qu'à partir du moment où je vis de l'abandon à l'égard de Dieu, c'est vrai, quand on s'abandonne entre les mains de quelqu'un, il y a naturellement une soif de connaître qui il est. Parce que je sais que plus je connais celui auquel je m'abandonne, et plus je pourrais m'abandonner profondément. C'est déjà vrai dans l'amour d'amitié, mais c'est a fortiori vrai au niveau de Dieu. C'est pour ça que même au niveau philosophique, plus je cherche à contempler Dieu, et plus mon adoration est véritable. Bien là, là c'est l'inverse, si vous voulez. Au point de vue philosophique, je recherche Dieu et ça me permet d'adorer. Au point de vue de la grâce, j'adore d'abord. Je m'abandonne à Dieu. Je l'aime. Et à l'intérieur de cet abandon, je m'interroge sur celui qu'il est, sur qui il est. Donc ça, c'est la voie, si vous voulez, de la foi. Et à l'intérieur de cet abandon, Dieu se révèle comme celui qui est. Et Dieu se révèle comme la sagesse. Alors, c'est vrai que ce n'est pas un texte où Dieu parle. Hein. C'est une méditation théologique. C'est une théologie révélée, la sagesse, le livre de la sagesse. Donc, j'allais dire, vous voyez, la part de l'intelligence humaine, la part de l'expression humaine du mystère de Dieu est plus grande dans le livre de la sagesse que dans l'Exode. Dans l'Exode, j'allais dire, vous voyez, on a directement la parole de Dieu. Enfin, Elle ne nécessite pas d'être comprise, alors qu'il y a un discours théologique dans le livre de la sagesse. Et c'est très intelligent parce que c'est la sagesse, vous voyez, qui permet de réunir je suis et puis l'abandon, la mission. Parce que comment je fais pour agir d'une manière telle que ça soit fidèle à ce que Dieu est? C'est ça la recherche de la sagesse. Le sage, c'est celui qui veut agir selon l'ordre de la sagesse de Dieu. Et donc, la sagesse humaine, elle est faite pour participer à la sagesse de Dieu. C'est ça qui est dans le livre de la sagesse. Pour accomplir sa mission, le peuple d'Israël, le croyant, a pour vocation de chercher à participer à la sagesse de Dieu et pas simplement de confesser son existence. Ça ne suffit pas de dire que Dieu est. Parce que ça change quoi dans votre manière d'agir, de dire que Dieu est? En quoi ça modifie votre manière d'agir? Ça ne vous renseigne pas sur la manière dont il faut respecter son voisin, vous voyez? Il n'y a pas de lien entre le fait que Dieu est et qu'il ne faut pas tuer son frère. Alors, Dieu me dit, en plus du fait qu'il me dit qu'il existe, il me donne la loi. D'accord? Mais la loi, c'est les grands principes, c'est les grands préceptes. Vous voyez, ça ne suffit pas pour agir quotidiennement, la loi. La loi, c'est les barrières, si vous voulez. Mais c'est très grossier, la loi. Si vous voulez. C'est les grands axes, la loi. C'est absolument pas ça qui me permet, j'allais dire, de vivre au niveau de ma vie quotidienne dans une recherche beaucoup plus fine de la vérité. C'est négatif, la loi. C'est ce qu'il ne faut pas que je fasse. Et c'est l'axe, c'est ce que j'ai à rechercher, qui est l'amour de Dieu et du prochain. Mais ça ne dit pas comment. Comment j'ai à chercher l'amour de Dieu et du prochain, c'est ça la sagesse. La recherche de la sagesse, c'est vrai au niveau philosophique, mais c'est vrai au niveau du croyant. C'est la recherche du chemin par lequel je vais arriver à mon bonheur. Alors cette recherche de la sagesse, philosophiquement, elle naît dans l'intelligence de ceux qui ont choisi de la chercher. Chez le croyant, c'est une exigence. Une fois que Dieu m'a confié sa mission, qui est l'attente de sa promesse, une fois que Dieu s'est choisi un peuple, son peuple est obligé de se mettre à l'école de la sagesse. C'est ce que ne cesseront de dire les prophètes aussi. Vous voyez, les prophètes essayeront d'arracher le peuple d'Israël à son attachement matérialiste, si vous voulez, au temple et à Jérusalem, en leur faisant comprendre que la véritable foi et la véritable obéissance à Dieu, elle consiste à rechercher sa sagesse, qui est une sagesse de miséricorde et d'amour. Vous voyez, c'est pour montrer que vous avez regardé l'approche philosophique, vous avez regardé l'approche de la foi, c'est important de voir que l'approche de la foi, elle réclame l'approche de l'intelligence. Et que Dieu nous donne ce texte qui est à l'égal des plus beaux textes de la philosophie. Alors ce qui est très étonnant, c'est qu'en plus l'auteur du livre de la sagesse personnifie la sagesse, qui est évidemment une préfiguration, vous voyez, ou une prémonition du mystère du Verbe de Dieu. Hein, puisque la sagesse, elle a l'air d'être Dieu et en même temps d'être autre que Dieu. Et dans la troisième partie du livre de la sagesse, à partir du chapitre 10, je ne vais pas vous le lire, mais précisément dans cette lumière de la sagesse divine, l'auteur montre comment cette sagesse s'est réalisée dans l'histoire. Donc vous voyez, au fond, pour vivre du Dieu de l'Alliance, j'ai besoin de me mettre à l'école de sa sagesse, et donc de chercher sa sagesse. Et pour chercher sa sagesse, je dois chercher qui il est. Et plus je découvre qui il est, et plus ça m'éclaire sur sa sagesse. Vous voyez, il y a un va-et-vient sans cesse entre la recherche de la sagesse, qui est la manière d'agir selon l'ordre que Dieu a voulu, et la recherche de Dieu lui-même. Alors qu'est-ce que ça nous apprend? Sur quoi est-ce que ça nous éclaire? Ça nous éclaire sur le fait que l'approche théologique, ou l'approche du croyant, du mystère de Dieu, est une approche pratique, pas d'abord une approche spéculative. Le philosophe, quand il recherche Dieu, c'est d'abord une approche purement contemplative. Il se pose la question de savoir s'il existe un être premier.
Oui, et il cherche à découvrir s'il existe un être premier. Une fois qu'il a découvert qu'il existe, il se pose la question de savoir comment est-ce que ça va modifier son existence. Et ça prend du temps, ça prend même des fois des générations entières avant de découvrir quelle est la manière d'agir conformément à l'existence et à la sagesse de Dieu. Pour le croyant, la question de Dieu, elle ne se pose pas d'abord d'une manière spéculative, elle se pose d'une manière pratique. Parce que le croyant, c'est celui sur qui Dieu a mis la main, en lui disant « Maintenant, quitte ton pays ». Vous voyez, donc il faut bien comprendre que l'exigence n'est pas la même. L'exigence de la recherche du mystère de Dieu pour le croyant, c'est une exigence qui est obligatoire pour sa vie, qui n'est pas simplement facultative pour le développement de son intelligence théologique. Vous voyez, la théologie est pratique autant qu'elle est spéculative, pas la philosophie. Ma vie, elle n'est pas philosophique, alors que ma vie, elle est théologique si je suis croyant. Vous voyez, il y a une unité entre l'aspect de la vie et l'aspect de l'intelligence dans la vie du croyant, et donc entre la théologie et la vie chrétienne, il y a une unité substantielle. L'intelligence pratique du croyant, c'est la théologie. Vous voyez, c'est pour se purifier de l'image qu'on a de la théologie comme un travail spécifique. Ça, c'est vrai de la philosophie, de ce qu'on appelle la théologie philosophique, c'est-à-dire de la recherche philosophique de Dieu. Alors que la recherche de Dieu pour le croyant, elle est à l'intérieur de son existence. Elle est une exigence interne à son existence. Parce que vous voyez, je veux dire, la recherche de Dieu pour quelqu'un qui n'est pas naturellement un grand spéculatif, ben, humainement, il dira très bien, le jour où au fond mon intelligence sera un peu plus assouplie, peut-être que je me poserai la question. Le croyant, il ne peut pas se dire ça parce qu'il a dû en travers, il ne le dit pas du tout, c'est tout de suite. Parce que tu peux pas faire un pas si tu te mets pas à chercher qui je suis. C'est ça hein, que dit la révélation de Moïse. Et c'est ça que révèle le livre de la sagesse. C'est que la recherche du mystère de Dieu, la contemplation, ou si vous voulez, la soif de contempler dans la foi le visage de Dieu, est la seule clé à l'existence du croyant. Voilà. Il n'y en a pas d'autre. Donc il ne s'agit pas d'être poli, serviable, gentil, bon père de famille, ce n'est pas la question du tout. C'est de contempler Dieu, c'est tout. Le reste, ça va suivre tout seul. Vous voyez ? C'est la différence avec l'attitude religieuse. Ça éclaire aussi sur la différence entre l'attitude religieuse et la foi. L'attitude religieuse, c'est une recherche de... Il faut chercher à agir selon le bien, humainement. Il faut faire le bien, humainement, selon ce que je découvre des exigences de l'amour et du respect d'autrui. Et puis, progressivement, je me mets à l'école de Dieu, je me mets à l'école de la recherche de Dieu. Vous savez, en Inde, il y a deux, trois périodes dans l'existence. Il y a la période de la jeunesse, il y a la période de la famille, il y a la période de la sagesse. La période de la famille, on fonde une famille, et puis une fois que ses enfants sont élevés, on quitte sa famille, et on rentre dans une démarche de recherche de sagesse mendiante. C'est très pédagogique, vous voyez. Dans la vie chrétienne, il y a des gens qui vivent d'une recherche de sagesse avant même d'avoir fini leur jeunesse. C'est pas du tout prudent au point de vue humain, c'est stupide. C'est vrai, il vaudrait bien mieux que dans la vie chrétienne, il y ait trois phases. Première phase, la jeunesse, on fait des bêtises. Deuxième phase, on rentre, vous voyez, dans un minimum de sérieux, on fonde une famille. Troisième phase, une fois que les enfants sont élevés, on rentre dans la vie contemplative. Ça serait parfaitement logique. Ça, c'est la démarche religieuse. Au point de vue religieux, c'est pas intelligent de se mettre à vouloir vivre une vie contemplative quand on a 20 ans, c'est ridicule. C'est ridicule, c'est complètement ridicule, c'est imprudent au dernier degré. Donc on le fait pas, au point de vue religieux c'est stupide. Ce que dit Aristote d'ailleurs, il dit, mais déjà l'activité politique, Aristote dit, mais ça c'est pas pour les jeunes. Ils sont tellement dans leur passion, ils y comprennent rien du tout. La justice, ils sont incapables de la respecter. Il faut commencer par leur donner des coups, des punitions, là ils comprennent à force. Et donc, il faut bien comprendre, vous voyez, que ça fait comprendre la manière dont la place de la recherche de Dieu s'insère dans une vie humaine religieuse, vous voyez, qui est une recherche naturelle de Dieu, et dans la vie du croyant. Dieu a voulu se révéler à des gens qui n'étaient pas du tout perfectionnés au point de vue philosophique. Les Hébreux, ce n'étaient pas des philosophes. Hein. Je ne veux pas dire qu'on ne pouvait pas trouver pire au point de vue, si vous voulez, des peuplades du Moyen-Orient. Mais c'est vrai, les lieux quand même où il y avait un terreau culturel un peu philosophe, c'était l'Inde, c'était l'Égypte. Et c'est pas des Égyptiens qui l'a choisi. Et encore moins des Hindous. Vous voyez, il faut être sensible à ça. Et je crois que c'est important, vous voyez, de voir que c'est ce que révèle la sagesse. Et Jésus, vous allez voir, parce que ça va éclairer la manière dont Jésus prend tout de suite, vous voyez, une manière de parler dans les synoptiques et dans l'évangile de Saint Jean qui nous déroute. Parce qu'il a l'air tout de suite de considérer qu'on est capable de comprendre tout ce qu'il dit. Non. Mais ce qu'il nous demande, c'est qu'on cherche. Tout de suite, ça c'est vrai. Pas qu'on y arrive, mais qu'on se mette tout de suite dans l'attitude de la recherche. Même si ça télescope nos capacités humaines, c'est pas la question. C'est le propre de la foi d'ailleurs. Le propre de la foi, c'est d'être capable à 12 ans d'avoir une soif de Dieu que normalement on a naturellement à 55 ans et au mieux. Et plutôt à 70 ans. Quand encore on l'a dans son existence. C'est vrai, vous avez des enfants qui à 10 ans qui sont baptisés, qui vous posent des questions, mais vous avez des gens qui ne se poseront jamais des questions comme ça dans leur vie. Qui vous posent des questions sur l'Eucharistie ou sur le mystère de la Sainte Trinité, qui ne sont pas des questions de catéchisme, hein, qui sont des questions de leur cœur. Vous dites, mais c'est complètement... Ça, oui, ça n'a pas de sens psychologiquement qu'ils posent ces questions-là, ces enfants. Mais c'est ça, la foi. Donc je crois que c'est important, vous voyez, une fois qu'on a vu la démarche philosophique, qu'on a vu la démarche théologique, qu'on les a bien distingués, de voir où se situe la recherche de Dieu dans l'existence de l'homme et dans l'existence du croyant. Donc relisez, hein, lisez-le, c'est très très beau, même si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. La sagesse de Dieu, du coup ça éclaire aussi la parole de Dieu. Le but de la parole de Dieu, c'est pas fait pour être compris d'abord, c'est fait pour être écouté. Dieu a pas dit « Comprends Israël ce que je te dis ». Non, il a dit « Écoute Israël ». Il n'a pas demandé de comprendre, il a demandé qu'on écoute. Mais normalement quand on écoute, on cherche à comprendre. Sinon on se contente d'entendre. C'est la différence entre entendre et écouter en français. Mais il n'a pas dit qu'il fallait comprendre. Oui, mais qu'il fallait chercher à comprendre. C'est l'écoute de la parole de Dieu. Donc il ne faut pas attendre d'être capable de la comprendre pour la lire, ni pour la recevoir. Donc relisez le livre de la sagesse, les chapitres 7 et 8. 9 aussi. Puis la suite. Non, parce que c'est très beau. Vraiment, c'est ça que ça montre. Et vous voyez, ça éclaire beaucoup sur l'économie divine. Quand Dieu, face à son peuple, ne peut pas lui faire comprendre ça, ben, il prend d'autres moyens. Quitte à les emmener en exil, s'il faut. Mais c'est ça qu'il veut, vous voyez. Je veux dire. Et l'exigence de Dieu ne diminue pas au fur et à mesure de l'histoire du peuple d'Israël. Au contraire, elle augmente puisqu'il s'agit de le préparer à la venue du Messie. Alors, vous voyez que la venue du Messie, qui est là, hein, qui est celui qui doit amener le peuple d'Israël à sa gloire, alors évidemment, on le voit chez les pharisiens et les sadducéens, l'attente de la gloire, c'est au sens matériel chez eux. Et le Messie, c'est un Messie temporel qui doit amener Israël temporellement à la gloire. Ce qui n'est pas le sens profond de l'Écriture. L'attente du Messie, elle nécessite et le sens de l'Alliance et le sens de ce qu'est Dieu. Alors, et c'est très beau, vous voyez, que ça soit l'exigence contemplative de la foi qui permette de ne pas matérialiser l'alliance. C'est tout près du peuple d'Israël. À partir du moment où le peuple d'Israël n'est plus comme un pauvre qui recherche à contempler Dieu, il matérialise l'alliance avec Dieu en disant « j'en suis dépositaire ». Donc c'est un droit. Les pharisiens, c'est ça. Les pharisiens, c'est des gens qui accomplissent l'alliance matériellement mais qui n'ont plus la recherche du visage de Dieu. C'est très étonnant parce que ça existe aussi dans l'Église. Ça, vous voyez, je ne sais pas. C'est pas la vie chrétienne, elle n'est un témoignage du mystère du Christ que si elle est animée par une vie contemplative. Sinon, c'est une matérialisation des exigences de Dieu. Et qui dit matérialisation dit rapidement caricature. Vous voyez, c'est très important, je crois, de voir ce lien qu'il y a, ce lien intrinsèque entre l'engagement pratique de Dieu. L'engagement, la manière dont Dieu engage Abraham dans une conversion et dans un chemin concret, et la recherche du mystère de Dieu. D'accord ? Donc l'attente du Messie, elle réclame les deux. Le Messie, c'est celui qui vient accomplir la promesse, mais c'est celui aussi qui vient répondre à l'attente de la recherche contemplative de Dieu. Et c'est ça qui est fou dans le mystère de l'incarnation. C'est que nous donnant son fils dans la nature humaine, Dieu ne pouvait pas faire plus. Vous voyez, j'allais du côté de la pédagogie à notre égard, oui, et du côté de la révélation de l'Alliance. Il ne pouvait pas nous manifester plus qu'il est proche de nous dans l'Alliance qu'en nous donnant son fils sous la forme d'un petit enfant. Oui. C'est très beau de voir en Jésus, en même temps que l'accomplissement, le dépassement de ces deux lignes de fond, oui, qui sont l'engagement de Dieu à l'égard de l'homme et de l'homme à l'égard de Dieu, et la recherche de la contemplation de Dieu à l'intérieur de ce mystère d'alliance. Vous voyez, je crois que c'est très éclairant sur l'Église. L'Église, c'est pas un frigidaire de la révélation, vous voyez, je veux dire. Ça n'a pas pour but de conserver la révélation en la transmettant matérialitaire. La mission de l'Église, elle n'est pas vivable sans une recherche du mystère de Dieu. C'est pour ça que la recherche de vérité, enfin c'est l'encyclique, la recherche de vérité, elle est nécessairement intérieure à la vie du croyant. Chacun selon ses moyens, ça on est tout à fait d'accord. Mais en se disant bien que, de toute façon le terme il est le même pour tout le monde. C'est ce que nous révèle la sagesse. C'est la contemplation de Dieu tel qu'il est. Alors, on va regarder dans cette lumière-là comment est-ce que dans les évangiles, Jésus parle de Dieu. Oui, c'est intéressant de voir la première fois que Jésus parle de Dieu. Alors, ce qui est très bizarre dans Saint Matthieu, on va pas tout lire, mais c'est que dans Saint Matthieu, Jésus ne parle. La première fois où Jésus parle de Dieu, c'est avec le démon. Vous savez, il y a un petit dialogue avec Jean-Baptiste au moment où Jean-Baptiste doit être baptisé, puis Jésus part au désert. Et la première parole où Jésus parle de Dieu, c'est en citant l'Écriture contre le tentateur. Mais surtout, on va le voir, l'annonce du mystère de Dieu, c'est l'annonce du royaume. Dans Saint Marc, il y a le royaume de Dieu est tout proche. Dans Saint Matthieu, le royaume des cieux est tout proche. Donc, la première manière dont Jésus parle de Dieu, c'est sous la forme du royaume. Oui, c'est très beau, c'est présent, c'est la promesse. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que la promesse s'accomplit. C'est ça que ça veut dire. Et donc Jésus révèle dans un premier temps la présence en même temps que lui et progressivement la présence à travers lui et même la présence en lui du royaume de Dieu. Oui, il y a une progression. Jésus révèle d'abord que le royaume de Dieu est là, c'est-à-dire que la promesse est en train de s'accomplir. Donc que l'engagement de Dieu à l'égard de son peuple est en train de parvenir à son achèvement. Et puis dans un deuxième temps, il montre que cet accomplissement de la promesse de Dieu se fait pas simplement en même temps qu'il est là, mais se fait à travers lui. Parce que c'est lui qui va donner les signes. Donc il n'est pas simplement l'annonciateur du royaume. Il est celui qui inaugure le royaume. Et même si on va plus loin, on voit que Jésus dans les synoptiques finit par se révéler comme la présence même du royaume. C'est lui qui est la présence du royaume. Et c'est dans la lumière de cet accomplissement de la promesse qu'il faut comprendre les béatitudes, hein, dans Saint Matthieu. Jésus dit, ça y est, vous êtes des bienheureux. Alors, la récompense, vous ne l'aurez pas tout de suite. Oui, c'est ça qui est très impressionnant chez Jésus. C'est qu'il dit, vous savez, les fameux passages où il dit, heureux les affligés, ils seront consolés. Jésus ne dit pas, vous serez bienheureux quand vous serez consolés de votre affliction. Il dit, heureux les affligés. Ils seront consolés. Donc il y a un décalage entre la béatitude qui est pour tout de suite, mais la consolation c'est pour plus tard. C'est ça qui est bizarre aussi. Mais ça c'est les béatitudes. Hein. Nous c'est bizarre parce que pour nous, la béatitude c'est avec la récompense, vous voyez. Et Jésus nous dit non, la béatitude, elle est déjà là. Mais la manifestation visible de la promesse, c'est pas pour tout de suite. Ça veut dire que vous allez encore pleurer, c'est ça que ça veut dire. Heureux êtes-vous, vous qui allez encore pleurer. Non, je dis ça parce que dans l'Apocalypse, précisément ce qui manifeste la plénitude du royaume et de la gloire, c'est qu'on ne pleure plus. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Si vous regardez bien les béatitudes, toutes les promesses qui sont faites au futur, elles s'accomplissent dans l'Apocalypse. Mais la béatitude est donnée tout de suite. Ce qui montre bien que la béatitude, elle est liée à la présence de Jésus. Oui, c'est ça qui est très beau, c'est que Jésus va amener progressivement les apôtres et les disciples à découvrir qu'elle est en lui la béatitude. L'inauguration du royaume, vous voyez, la présence de la béatitude du royaume, c'est lui. Il ne vient pas l'apporter comme on vient apporter quelque chose. Le quelque chose qu'il faudra apporter, ça c'est pour la gloire. Mais la béatitude, qui est d'abord intérieure, elle est là. D'accord ? Alors, il y a un deuxième grand axe qui est évidemment présent avant. C'est celui du pardon et de la miséricorde. C'est que l'engagement de Dieu à l'égard de son peuple et en même temps la révélation de l'exigence contemplatif de Dieu sur son peuple se fait pas dans la dureté, elle se fait dans la miséricorde. Dieu apparaît comme le miséricordieux, comme celui qui pardonne. C'est très beau d'ailleurs. C'est comme celui qui ne diminue pas les exigences. C'est très très beau. Oui. Parce que le pardon, c'est ce qui permet de ne pas diminuer les exigences, même si ça ne marche pas. C'est très astucieux, divinement. Oui. C'est que ou bien c'est tout progressif. Donc vous voyez, je veux dire, on part de zéro et puis on avance doucement. À ce moment-là, le « je suis » serait que dans l'Évangile. Le livre de la sagesse, ça ne nous aurait pas été révélé dans l'Ancienne Alliance. Puis Dieu aurait fait les choses beaucoup plus progressivement. Ça aurait peut-être pris un certain nombre de millénaires de plus. Là non, Dieu ne diminue rien des exigences, c'est ce que révèle la loi et la révélation du « je suis ». Mais il sait très bien que son peuple est un peuple à la nucrède. Et donc il lui révèle sa miséricorde. Il lui révèle que si l'exigence de sainteté auquel il appelle son peuple ne sera jamais diminuée, jamais sa colère ne s'élèvera contre son peuple parce qu'il tombe. Mais elle s'élèvera toujours contre son peuple parce qu'il ne veut plus se relever. C'est pas la même chose. Mais c'est très impressionnant ça. Ça c'est, si vous voulez, où la clé de la sagesse divine, c'est la miséricorde. Pour parler dans la ligne de ce qu'on a vu tout à l'heure. Cet axe de la sagesse, il est lié à la miséricorde. La sagesse de Dieu, elle est miséricordieuse. C'est-à-dire qu'elle est de se servir de la pauvreté de l'homme pour que l'homme réponde encore mieux aux exigences. C'est ça qui est très bizarre. Nous, vous voyez, humainement, quand ça ne marche pas, ben ça prouve qu'on n'y arrive pas. Laissons tomber. Dieu, ça ne le gêne pas que ça ne marche pas. Pourvu qu'on essaye. Très impressionnant ça. Oui, je donne la... Enfin, ça, c'est pas tout à fait le mystère de Dieu, si vous voulez, mais c'est plus le mystère de sa sagesse. La clé de sa sagesse, c'est la miséricorde et le pardon. Et les pharisiens ne s'y tromperont pas, qui, lorsque Jésus se met à pardonner, disent au fond, tu te fais l'égal de Dieu pour pardonner. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner. Parce que, vous voyez, j'allais dire, il n'y a que Dieu lui-même qui peut révéler à son peuple qu'il ne le condamne pas. Seul Dieu peut dire à l'un de ses enfants du peuple d'Israël, je ne te condamne pas. Un homme ne peut pas le dire, puisque tout le peuple d'Israël est lié par l'alliance divine. C'est ce que font les pharisiens. Les pharisiens se condamnent, enfin, vous voyez, la tentation c'est de se condamner les uns les autres au nom de la loi. Et Jésus apparaît comme celui qui pardonne, pas de son autorité humaine, mais de son autorité divine. Donc, vous voyez, la figure du Messie était une figure de miséricorde. Et on voit apparaître progressivement, c'est ce que dira saint Thomas d'ailleurs, il dit que la miséricorde, c'est ce qu'il y a de plus propre à la sagesse de Dieu. Vous voyez, on voit, et c'est très beau parce que la miséricorde, ça ne se comprend pas simplement de manière philosophique. Pourquoi ? Parce que la miséricorde, c'est pas un attribut spéculatif. De Dieu, en philosophie, on dit qu'il est simple, qu'il est bon, qu'il est amour. Vous ne pouvez pas dire qu'il est miséricorde. Parce que la miséricorde, elle n'est révélée que par la présence de Dieu dans la misère. C'était le texte de ce matin. Vous voyez, c'est que parce que Dieu se rend présent dans son amour à l'intérieur de la misère sans exercer sa toute-puissance et sa justice, que je peux affirmer sa miséricorde. C'est une question d'expérience, la miséricorde. Donc on pourrait presque dire, vous voyez, dans la ligne de ce qu'on a dit, que l'expérience la plus forte que le peuple d'Israël fait de la sagesse de Dieu, vous voyez, l'expérience la plus forte dans laquelle l'alliance et la mission confiée au peuple d'Israël et l'exigence de Dieu qui est liée à sa transcendance, à sa sainteté, la révélation de la sainteté de Dieu, la manière dont la sagesse divine unit les deux, le peuple d'Israël ne l'expérimente jamais autant que dans l'expérience de la miséricorde et du pardon. Oui, c'est très beau ça. Il y a une expérience pratique de Dieu qui est celle de l'engagement par Abraham qui doit quitter son pays et l'engagement du peuple d'Israël qui doit obéir à Dieu. Il y a une exigence transcendante qui fait que le peuple d'Israël, il est voué à être le peuple de Dieu, c'est-à-dire que Dieu ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas atteint le niveau de la sainteté divine. C'est ça que ça dit, hein. C'est rude, mais c'est comme ça. Eh bien, le lieu où le peuple d'Israël, j'allais dire, lutte contre la révolte, vous voyez, à l'égard de sa vocation, c'est dans l'expérience de la miséricorde. Parce qu'il n'y a que la miséricorde qui est capable, j'allais dire, de rendre raison de ce décalage entre l'exigence de Dieu, vous voyez, et l'imperfection du peuple d'Israël à l'égard de sa mission. C'est très beau de voir que l'expérience... C'est peut-être pour ça que saint Thomas dit ça. Parce que saint Thomas, il dit des choses et il n'explique jamais pourquoi. Vous voyez, que ça soit l'attribut le plus propre à Dieu dans la théologie. Ce que je peux dire de plus propre à Dieu en théologie, c'est la miséricorde. Parce que c'est la miséricorde. Vous voyez, alors, ce que je dois même dire, c'est que la miséricorde me révèle quelque chose que la philosophie ne me permet pas de dire. L'expérience de la miséricorde me fait atteindre quelque chose de Dieu dans mon intelligence, pas simplement dans mon cœur. Me fait atteindre quelque chose de Dieu que le philosophe ne peut pas dire. Qui est présentement une expérience de la sagesse de Dieu. Ça, c'est pas rien le pardon. Et c'est cette expérience que Jésus propose, si vous regardez bien. C'est déjà l'expérience que propose Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il propose quoi ? Une expérience de miséricorde. Le baptême. Et Jésus, ce qu'il propose, c'est une expérience de miséricorde, le pardon des péchés. Et c'est très beau. Vous savez, c'est comme c'est pas l'exercice de saint Ignace, mais c'est ceux de Jésus. L'exercice de Jésus, c'est l'expérience de la miséricorde. Jésus n'a pas fait un séminaire de théologie, vous voyez, en installant les gens et en disant « Maintenant, je vais vous expliquer qui est Dieu. » Petit premièrement, la création. Petit deuxièmement, la providence. Petit troisièmement, la Sainte Trinité. Mais il s'est pas non plus contenté de sauver son peuple sans l'enseigner et sans vouloir lui faire vivre ce qu'il apportait comme mystère. Et si vous regardez bien, enfin, il faudrait creuser, hein, mais il me semble que Jésus donne sa parole, mais l'expérience qu'il cherche à faire vivre, c'est ce qu'on appelle la conversion aussi. C'est la même chose, la conversion à la miséricorde. C'est la même expérience. On n'a pas le temps de le développer, mais c'est la même chose. Se convertir et découvrir la miséricorde de Dieu, c'est la même chose. C'est tout un. Mais c'est très frappant de voir que, vous voyez, le mystère de Dieu se révèle là, avant la révélation de la Sainte Trinité. Que pour entrer dans le mystère de Jésus, Jésus me propose l'expérience de la miséricorde. Sans que ça annule l'exigence de la contemplation, de la recherche contemplative de Dieu. Et sans que ça annule l'abandon à la mission que Dieu me donne. Mais devant de telles exigences, pour ne pas me décourager, c'est la miséricorde. Ce qui m'intéresse évidemment, c'est dans saint Jean. Parce que vous comprenez bien que saint Matthieu, les synoptiques sont plutôt du côté de la mission. Vous voyez ? c'est difficile de trouver une révélation de la Sainte Trinité dans la, dans les synoptiques. Vous avez la finale de Saint Matthieu. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais c'est difficile de... Vous voyez, Jésus se révèle comme le Fils de Dieu dans Saint Matthieu. Mais c'est très... Vous pouvez lire Saint Matthieu sans avoir la foi chrétienne. Du côté du contenu. La révélation proprement du mystère même de Dieu, tel que Jésus veut nous y introduire, il y a un passage, hein, ce qu'on appelle le, précisément le passage johannique des synoptiques, qui dit tout ce, je ne sais plus à quel endroit ça se trouve. Nul ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. De Matthieu. Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux habiles et de l'avoir révélé aux tout petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, comme nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Ça, c'est le passage qui est le plus fort dans les synoptiques, hein, de la révélation du mystère même de Dieu. Mais c'est comme le trésor qui est caché, vous voyez, au cœur de la révélation du Christ comme Messie. Et dont la révélation de la divinité est plus par le pardon que par l'enseignement. Évidemment par la passion. Là, vous voyez, les tout-petits, ils sont là, les tout-petits. C'est ceux qui vivent de la miséricorde, les tout-petits. Mais les tout petits, c'est pas ceux qui se sont installés, vous voyez, dans une bêtise volontaire. Faut pas confondre. Les sages et les savants, c'est ceux qui veulent faire de la théologie comme on fait de la philosophie. C'est-à-dire qui s'imaginent que c'est en spéculant sur Dieu qu'ils vont rentrer dans la sagesse de Dieu. Ce qui n'est pas vrai. Ils rentreront dans la sagesse naturelle de Dieu, mais ils ne rentreront pas dans la sagesse de Dieu qui est celle de l'Alliance. Vous pouvez faire toute la philosophie de la terre, ça vous fera pas. Vous voyez, ça peut vous disposer, mais ça ne vous fait pas entrer dans cette sagesse-là. Ça vous dispose. Mais ce n'est pas la même expérience, vous voyez, qu'Aristote a en écrivant les métaphysiques, en recherchant le mystère de Dieu, et celle d'Abraham qui est de quitter son pays. Mais les petits, ce n'est pas ceux qui n'ont... Vous voyez, il ne faut pas opposer la petitesse évangélique avec le livre de la sagesse, par exemple. Le livre de la sagesse, ce n'est pas les sages et les savants. C'est l'exigence contemplative de la foi. Alors, ce qu'on va voir dans Saint Jean, on regardera tout à l'heure, c'est comment Jésus ne parle de Dieu qu'à l'intérieur de l'expérience qu'il a du Père, vous voyez, qu'à l'intérieur de son lien avec le Père. Voilà. Jésus ne parle pas de Dieu de l'extérieur, dans Saint Jean. On va voir qu'il parle de Dieu en parlant de son Père. Et en parlant de son Père comme s'il était plus qu'un homme. C'est ça qui est très beau. On va voir que la révélation du mystère de Dieu est une révélation qui est une révélation qui se fait à l'intérieur du mystère de Dieu. Jésus nous fait entrer dans le mystère de Dieu, vous voyez. Il ne nous donne pas un enseignement sur Dieu. Il nous fait entrer dans le mystère de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Et il nous y fait entrer, pas simplement avec notre intelligence. Il nous y fait entrer par notre vie. On va voir que le chemin de l'évangile de Saint Jean, c'est que Jésus nous fait entrer dans sa vie, qui est la vie de Dieu. Et il ne nous donne pas, à proprement parler, un enseignement sur Dieu. C'est pour ça que c'est très particulier. Vous allez voir la manière dont Jésus révèle le mystère de la Sainte Trinité dans l'évangile de Saint Jean. Il les révèle en y faisant entrer.
Session de théologie à Rimont. Dieu des philosophes et Dieu des chrétiens. 10e conférence. Le 24 octobre 1993 par le Père Samuel.
Alors, il y a deux petites questions. Qu'est-ce que le pardon entre les hommes, entre hommes ? Au sens strict, il n'y a pas de pardon au niveau humain. Sans la grâce, au sens strict, on peut ne pas tenir rigueur à l'autre, mais on ne peut pas lui pardonner au sens où on ne peut pas faire, vous voyez, on ne peut pas se servir de la faute de l'autre pour un plus grand bien. Il n'y a que Dieu qui est capable de dépasser l'exigence de la justice par le pardon. Alors, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on excuse, vous voyez, ou on oublie, ou on se réconcilie. Mais on ne peut pas se servir de la faute, vous voyez, je ne sais pas comment vous dire. La faute, elle a existé. Je peux passer au-delà, mais je ne peux pas la supprimer. Je ne peux pas m'en servir de la faute de l'autre. Vous voyez, je ne sais pas comment vous dire. Quelqu'un vous injurie d'une manière irrespectueuse. Bon. Vous pouvez, avec le temps, ça passe, vous voyez, il vous dit oui, qu'il était désolé, que c'est parce qu'il était en colère et tout. Et cet acte, ça vous a blessé. Il ne peut pas faire que ça n'a pas existé. Il ne peut pas faire qu'il n'y a pas eu un désordre. Et il ne peut pas le réparer complètement, ce désordre. Dans le sens que, vous voyez, la faute, elle a existé. Il peut essayer de compenser, mais on ne compense jamais, puisque c'est passé. On ne répare jamais, vous voyez, je veux dire. La faute qu'on a commise, on ne peut jamais la réparer complètement au point de vue humain. Alors, ça ne veut pas dire que ça s'accumule. Mais ça veut dire que je n'ai plus de pouvoir sur l'acte mauvais que j'ai commis. Ce que je peux, c'est poser des actes bons après. Je ne peux pas me servir de l'acte mauvais. Or, le propre du pardon, c'est que Dieu se sert de la faute. Oui, ici. Le pardon, c'est pas simplement Dieu qui me dit, tu vois, relève-toi, c'est pas grave, tu vas t'en remettre. C'est pas ça le pardon. C'est pas Dieu qui me dit, au fond, t'as fait une bêtise, j'étais pas content, maintenant je te ressouris de nouveau. Ça, c'est pas le pardon, ça. Ça, c'est l'excuse que donnent les pas. Enfin, c'est ce qu'on appelle le pardon au niveau humain, vous voyez, comme quand un enfant vient demander pardon. Mais au sens strict, c'est pas ça le pardon au sens divin. Le pardon au sens divin, ça implique d'avoir un pouvoir sur le péché. D'ailleurs, Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. Au nom de quoi vous ne pouvez pas faire ça pour l'autre ? Vous n'avez pas pouvoir sur le péché de l'autre. Vous avez un pouvoir sur ce qui vous a blessé. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour le dépasser. Mais vous n'avez pas pouvoir sur sa faute. Il n'y a que Dieu qui a pouvoir sur sa faute. Il n'y a que Dieu qui peut se servir de sa faute pour lui révéler son amour. Je vous laisse perplexe. Hein. Comment vous expliquer ça autrement ? Alors, bon, d'abord, pour prendre les choses de beaucoup plus simples, vous ne pouvez pas pardonner à quelqu'un d'autre une faute qu'il a commise sur un troisième. Ça, pour vous expliquer simplement. Vous n'allez pas dire « Je te pardonne d'avoir frappé mon frère ». Oui, ça c'est clair. Au sens strict, c'est limite quand des enfants disent quand des parents disent à leur enfant qu'il est pardonné d'avoir injurié son professeur. Oui, parce qu'il a blessé la famille, vous voyez ce que je veux dire ? Parce que ça a blessé la famille. Dans ce sens-là, oui, il est pardonné parce qu'au fond, il s'est fait. Ça a été un déshonneur pour la famille, je veux bien. Et vous n'avez pas pouvoir sur les bêtises qu'a fait l'autre sur un troisième. Or Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés, c'est-à-dire que c'est les péchés même à l'égard d'autrui. Mais même par rapport à vous. Par rapport à vous, vous n'avez pas pouvoir sur le mal que l'autre vous a fait. Il y a une injustice, elle existe. Cette injustice, elle a été commise. Cet acte, il a été mauvais. Vous ne pouvez pas faire qu'il se transforme en un acte bon. Or, par le pardon, mon acte mauvais se transforme en acte bon. Pas parce qu'on revient dans le passé, hein, mais parce que c'est le propre de Dieu, précisément, c'est de me pardonner mes péchés. Dieu ne me dit pas « je te pardonne les conséquences de tes fautes ». Il ne dit pas non plus je te pardonne le mal que tu as fait. Il dit « je te pardonne tes péchés », ça dit bien. Le péché, c'est un acte. C'est pour ça que c'est proprement divin, le péché. C'est Dieu, si vous voulez, c'est Dieu qui... C'est pour ça qu'il n'y a jamais de temps perdu. Vous savez, quand les gens se convertissent à 60 ans en disant « mais au fond, j'ai perdu 60 ans ». C'est pas vrai. Le propre du pardon des péchés, c'est que les 60 ans, ils sont immédiatement récupérés par la grâce. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre 60 ans. Hein. De toute façon, parce que ça serait l'horreur pendant 60 ans d'attendre de se convertir. Donc, vous pouvez se convertir tout de suite. C'est la seule chose qui rend heureux. Mais c'est vrai que, vous voyez, c'est... Sinon, il y aurait un gaspillage fou, vous voyez, mais un gaspillage grave, au sens où il y aurait une... Dieu s'amuserait à ce que quelqu'un gaspille les trois quarts de sa vie. Il a autre chose. Vous voyez, c'est absolument pas convenant à la sagesse divine, ça. C'est-à-dire, humainement, ça pose une question. Hein. Le mal est une question philosophique irrésolue. Et la sagesse de Dieu à l'égard du mal est un problème irrésolu au niveau philosophique. Je ne peux pas m'expliquer que Dieu permette ce qu'il permet. J'ai à l'adorer pour ne pas me révolter, mais je ne peux pas le comprendre. Et donner des explications comme les amis de Job là, qui lui expliquent, qui lui donnent des cours de théologie à longueur de journée pour lui expliquer pourquoi il lui arrive ce qui lui arrive, et Job dit je veux pas le savoir ça. Le seul qui peut répondre à ma question, c'est Dieu. Alors, le long du livre, on se dit mais il est d'un orgueil fou, il va se prendre une raclée divine. Et pas du tout. Et pas du tout. Dieu dit pas du tout. Il a parfaitement raison, mon serviteur Job. Parce que vous cherchez à donner des raisons sur ce que vous n'êtes pas capable de justifier. Il n'y a que Dieu qui peut justifier. Enfin, il n'y a que moi qui puisse justifier. Après il discute avec Job en lui disant, voilà, maintenant, sainte ta ceinture et réponds à mes questions. Qui a fait la création? Qui a fait les montagnes? Qui a fait la pluie? Où étais-tu quand j'ai fait l'univers? Et au nom de quoi est-ce que tu discutes ma sagesse? Mais ça, il n'y a que Dieu qui peut le dire. Vous voyez, il faut bien voir que sur le mal et sur la faute, l'homme n'a pas de pouvoir. Il a un pouvoir sur les conséquences. Vous avez cassé un carreau, vous pouvez le réparer, mais vous ne pouvez pas faire que vous n'avez pas cassé de carreau. Voyez, quand on va arriver au ciel, on n'aura pas le stock de tout ce qu'on a fait de mal, voyez, qui va nous retomber sur le point de la figure. C'est le propre du pardon. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que ça fait partie du pardon que d'avouer toutes ses fautes. C'est que ça soit vraiment nos actes qui soient pardonnés. C'est très beau, vous voyez, c'est au fond... Je confie à Dieu, alors même si je ne me souviens pas tout, mais mon désir c'est de confier à Dieu mes actes, vous voyez, c'est que tout ce qui a été gaspillé au mauvais sens, vous voyez, tout ce qui a été contre Dieu, je le lui offre, et le propre de sa grâce, c'est précisément de leur donner, enfin, d'en faire une occasion d'amour, de les transformer en lieu de grâce. En passant au-delà, en allant au-delà de la faute, en allant au-delà de la faute, mais elle ne peut pas la reprendre. Ah si, humainement, il y a toujours une limite. Si, si, il y a un moment où je ne peux plus reprendre. C'est-à-dire que la blessure est telle que je ne peux plus. Je ne suis plus capable de réaffronter l'autre. C'est pour ça que je ne peux pas aimer mon ennemi, humainement. Je ne peux pas aimer mon ennemi parce que je ne peux pas l'aimer. Je peux avoir le désir de l'aimer, mais je ne peux pas l'aimer en acte. S'il est vraiment mon ennemi, c'est-à-dire s'il est celui qui me blesse. Parce qu'à un moment, je ne peux plus humainement surmonter la blessure, la faute. Qu'il y a un taux d'injustice tel que je ne peux plus, que ça ne serait plus juste que je continue de l'aimer. Sinon, c'est vous voyez, il y a un moment, ça n'est pas juste que je continue de l'aimer. C'est un devoir pour moi de cesser de l'aimer. Toujours comme personne humaine, mais plus comme ami. Mais divinement, ça n'existe pas. Il n'y a pas de limite à la miséricorde. Elle est infinie. Donc il n'y a aucune offense à Dieu et aux frères, à mes frères, qui ne puisse être prise. Sauf dit l'Écriture, le péché contre l'Esprit Saint, mais ça c'est vraiment c'est le désir, c'est l'offense qui fait qu'on ne veut pas être pardonné. Donc ça, on ne peut pas faire grand-chose. Mais c'est très... Vous voyez, il faut souvent voir que c'est la manifestation de la toute-puissance divine au service de l'amour, le pardon. Hein. Ce n'est pas du tout le passage de l'éponge. C'est beaucoup plus que ça. D'ailleurs, quand on vit l'expérience de la conversion et du pardon, on voit bien qu'on ressort à neuf. Mais c'est pas la même chose que le divan du psychanalyste. Vous voyez, je veux dire, C'est pas parce qu'on a la conscience déchargée, ça c'est ridicule. Vous allez voir un psychanalyste, vous ne sortirez pas comme d'un confessionnal. Je suis désolé. Vous aurez la conscience déchargée, c'est-à-dire que vous aurez quelqu'un dont vous avez l'impression qu'il vous comprend. Ça, ça vous refait pas un vous ne renaissez pas. Ça ne fait pas une renaissance. Alors que le pardon, ça me fait renaître. Vous voyez, je repars radical. Si vous voulez, je réactualise la grâce du baptême par le pardon. Donc c'est extrêmement fort. Oui, voilà. Et il y a un décalage infini. Oui, il y a un décalage complet. Par la grâce, c'est le mystère de la grâce. Au niveau humain, il y a des limites. Mais à cause de la grâce, il n'y en a pas. Combien de fois dois-je pardonner à mon frère? 7 fois, 77 fois, 7 fois. Oui, mais humainement, sans la grâce. Sans la grâce. Sans la grâce. Ce qui veut dire d'ailleurs que même avec la grâce, à l'intérieur de ma prudence, je ne vais pas continuer indéfiniment à l'expliquer à mon frère que je l'aime alors qu'il me tape dessus. Il y a un moment, je vais arrêter de me faire taper dessus. Ça, c'est pour te montrer que même là, il y a une limite humaine. Mais par contre, je vais continuer à l'aimer de charité. Enfin, j'ai la grâce pour continuer à l'aimer de charité. Ce qui n'est pas rien. Et là, il n'y a pas de limite. Jamais. Il y a des limites psychologiques, mais au point de vue... C'est-à-dire que je peux avoir, dans mon vécu, être persuadé que je ne suis plus capable d'aimer et ne même plus être capable de l'envisager dans mon vécu, mais pas au niveau divin. Alors... Évidemment, je ne peux vivre ça qu'appuyé sur la miséricorde du Christ. Tu vois. Pour le coup, ce n'est pas automatique. C'est vivant moi-même du pardon et ayant découvert de manière contemplative ce que c'est que le pardon. Tu vois, ça ne se fait pas tout seul. Effectivement, on voit des chrétiens qui sont dans des situations où ils ont beau demander à Dieu, ils n'arrivent pas à pardonner. Mais souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas cherché à contempler la miséricorde de Dieu dans le pardon qui leur est donné. Tu vois, ils voudraient que ça soit automatique. Que je puisse pardonner comme on me pardonne. Tu vois, c'est pas... Puisque c'est contemplatif, c'est pas automatique. Mais au point de vue de la grâce, il n'y a pas de limite. Ça peut me réclamer, j'allais dire, des pas dans la foi énormes, hein, mais je ne peux jamais dire que je n'y arriverai pas. Parce que moi, je rends Dieu menteur. Mais c'est important, hein, Alors, je vous dis, les pharisiens ne sont pas trompés. Mais de découvrir ce que ça manifeste de la toute-puissance divine. D'ailleurs, il y a une oraison qui dit Seigneur, tu ne manifestes jamais autant ta toute-puissance que quand tu pardonnes infiniment dans ta miséricorde. Enfin, c'est pas comme ça que ça le dit, mais c'est ça le fond de l'oraison. Que le lieu où la toute-puissance se révèle dans le mystère chrétien, c'est dans le pardon. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ben, ça signifie ça. Ça signifie que la vie de Dieu est capable de reprendre mes actes mauvais pour les transformer en lieu de grâce. Là, évidemment, ce qui est rude, c'est que ça, on l'accepte pour soi, mais c'est dur à accepter pour autrui. Quand c'est quelqu'un qui commet le mal. Parce qu'on se dit toujours, ben, c'est bien facile. Ça, c'est un regard extérieur. Il y avait eu une émission, hein, d'une jeune femme qui avait subi une agression violente, qui avait été défigurée et qui témoignait du pardon qu'elle avait donné. Elle était chrétienne, évidemment. Du pardon qu'elle avait fini par donner et du temps qu'il avait fallu en face de Dieu pour finir à pardonner à son agresseur. Et c'était en présence de quelqu'un qui était juif et qui dit, mais vous ne pouvez pas pardonner. C'était très juste, vous voyez, d'un point de vue, j'allais dire, il n'y a que Dieu qui peut pas. Enfin, c'est le propre de l'alliance chrétienne. Pour qu'un frère puisse dire à son frère qu'il le pardonne, c'est parce qu'il est chrétien. Même dans le peuple d'Israël, il n'y a pas de pardon. Je peux implorer le pardon de Dieu pour mon frère, mais je ne peux pas le pardonner, au sens strict. Vous voyez, alors que ce qui est très beau, c'est que la mission du pardon, elle m'est confiée. Pas simplement au prêtre, elle est même confiée au frère. Enfin, elle nous est confiée à chacun. Mais elle ne nous est pas confiée comme ça, vous voyez, automatiquement. Elle nous est confiée comme une responsabilité qui est sans doute la plus grande qui soit. Bon, mais ça, on... Mais c'est pour dire que c'est un lieu où Jésus révèle le visage de Dieu d'une manière encore plus forte que l'ancienne alliance. Il faudrait voir, là ça j'ai pas fait l'enquête, mais parce que Pierre dit, mon maître, combien de fois dois-je pardonner? Très étonnant. Alors, est-ce que dans la tradition juive, il y avait une tradition du pardon? Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression. Je vais lire dans l'Ancien Testament. Mais si vous avez un texte dans l'Ancien Testament auquel vous pensez qui parle du pardon, de l'homme à l'égard de l'homme, moi, je ne vois pas. Ce qui est très bizarre, d'ailleurs, parce qu'on se demande sur quoi s'appuie Pierre pour demander ça. Les dettes, oui. Non, les dettes. Oui, les dettes, pas les fautes, non. Non, non. Présentement, tu ne crois pas que tu puisses remettre les dettes. C'est très simple, sinon, encore une fois, on n'aurait pas dit à Jésus, au nom de quoi peux-tu pardonner? Ce qui montre bien hein, que le... Et donc, c'est à cause de ça. Enfin, il semble donc que Pierre... Il y a eu un enseignement de Jésus, qui ne nous a pas nécessairement révélé, où Jésus a manifesté aux apôtres qu'ils avaient eux aussi à pardonner. Oui, c'est vrai, comme nous pardonnons aussi. Oui, tout à fait, c'est vrai. Tout à fait, c'est vrai, c'est notre peine. Cette espèce de phrase bizarre où Jésus nous fait dire qu'il faut que nous pardonnions comme nous soyons. Nous lui demandons d'être pardonnés comme nous pardonnons à nos frères. Ce qui est très bizarre, parce que s'il nous pardonne que comme on pardonne à nos frères, il ne risque pas de nous pardonner beaucoup. C'est très, très bizarre le Notre Père qu'on récite tous les jours. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça ne risque pas d'aller très loin. Il vaudrait mieux qu'on lui dise, Seigneur, pardonne-nous beaucoup plus que nous ne pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors c'est vrai que ce n'est pas un comme, vous voyez, au sens simplement d'une comparaison. C'est beaucoup plus le fait que c'est de demander à Dieu la grâce de pouvoir pardonner. Que c'est une demande. Ça veut dire pardonne-nous nos offenses au point que nous puissions pardonner à nos frères. Alors l'autre question, peut-on dire de la Vierge Marie quel est le royaume de Dieu? Non, je ne peux pas dire ça. Je peux dire qu'elle est la première avec Jésus dans le royaume de Dieu. Elle est la première invitée dans le royaume de Dieu. Si vous voulez, elle est la reine de ce royaume, si vous voulez. Mais elle n'est pas le royaume. Le Christ est le roi, d'ailleurs, c'est ce qu'il dit à Pilate. Je suis roi. Le Christ est le roi de ce royaume. L'Écriture ne nous révèle pas qu'elle en soit la reine, si ce n'est l'Apocalypse, qu'on peut le dire. Mais on ne peut pas dire qu'elle est le royaume. Si ce n'est par métaphore, comme on dit d'une reine, quel est son pays. Mais bon, c'est un peu bizarre. Non, je ne vais pas vous relire tout l'évangile de Saint Jean. Hein. Simplement, vous relire le passage de Nicodème. En vous rappelant que la première vocation des deux disciples dans Saint Jean, c'est comme Abraham. Hein. Rabbi, où demeures-tu? Venez et voyez. La différence avec Abraham, c'est que c'est eux qui viennent à Jésus pour lui demander où il demeure. Et il s'agit de nouveau d'un exode. Il s'agit d'aller là où habite Dieu. C'est toujours la même image. Oui. Venez et voyez. Ils allèrent donc et ils virent où il demeurait. Ce qui est une très belle figure du Messie, si vous voulez. Jésus est celui qui nous amène là où Dieu demeure. Donc c'est à Nicodème hein, qui est donné le premier enseignement, au sens fort. Jusque-là, il n'y a que des signes. Parce que les deux apôtres, on ne sait pas ce que Jésus leur a dit. Il y avait parmi les pharisiens un homme qui s'appelait Nicodème, un notable des Juifs. Il vint de nuit à Jésus et lui dit, « Rabbi, nous le savons, tu es un maître qui vient de la part de Dieu. Personne ne peut accomplir les signes que tu accomplis si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Vous voyez, Jésus ne répond absolument pas à ce que Nicodème est en train de... Ça lui compte mal qu'on lui fasse des éloges, ce n'est pas du tout son problème. Jésus annonce donc, vous voyez, qu'au fond, voir le royaume de Dieu, c'est très beau parce que
Les synoptiques disent que Jésus dans les synoptiques dit que le royaume de Dieu est proche. Là, il s'agit de voir le royaume de Dieu dans l'évangile de Saint Jean. Saint Jean parle, le mot voir chez Saint Jean est toujours l'expression de la foi. Voir le royaume de Dieu. Pour Saint Jean, il ne s'agit pas simplement de constater qu'il est proche, il s'agit de le voir. Et on ne peut pas voir le royaume de Dieu sans être d'en haut. Alors, on n'y comprend pas grand-chose, enfin Nicodème n'y a pas compris grand-chose, mais ça veut dire au moins, une naissance d'en haut, ça veut dire que c'est encore un exode, c'est-à-dire qu'il faut passer d'un monde à un autre. Parce que le propre d'une naissance, c'est quand même c'est le premier exode. Et donc on va voir hein, que Jésus révèle dans l'évangile de Jean comment la contemplation de la gloire de Dieu, c'est ça le royaume de Dieu. Voir le royaume de Dieu, c'est contempler la gloire de Dieu, ça veut dire exactement la même chose. Ça ne se fait qu'au prix d'une naissance, ça ne se fait qu'en entrant dans un monde nouveau, et ce monde, c'est le mystère du Christ. Donc si vous voyez, il ne s'agit pas, vous voyez, Nicodème arrive et il veut un enseignement. Il dit, maître, tu es un maître qui vient de la part de Dieu. Donc ça veut dire que tu es quelqu'un qui vient nous enseigner de la part de Dieu. Tu accomplis des signes. C'est que tu accomplis des signes, ça veut dire que tu fais des signes pour bien montrer que tu es un maître, mais l'essentiel c'est que tu vas nous expliquer quelque chose. Et Jésus ne répond absolument pas à la demande de Nicodème. Jésus ne vient pas expliquer quelque chose. Il vient aider Nicodème à naître. C'est tout autre chose. Vous voyez, je veux dire, la réponse de Jésus, encore une fois, comme dans l'Ancienne Alliance, il ne s'agit pas de donner des explications. Il s'agit de faire vivre quelque chose de nouveau. Jésus vient pour nous faire vivre du mystère de Dieu et nous révéler qui est Dieu à l'intérieur de cette vie dans le mystère de Dieu. Mais il ne vient pas nous expliquer qui est Dieu. Jésus ne fait pas des cours. Et quand on dit un enseignement, c'est vrai, mais c'est un enseignement très particulier. Ce n'est pas un enseignement comme on explique. Ce n'est pas un cours que fait Jésus. C'est plus une initiation qu'un enseignement. Parce que le but de ce que dit Jésus, c'est toujours que ses auditeurs se tournent vers lui et j'allais dire, le reçoivent dans la foi. Donc refasse à son égard ce qu'Abraham a fait à l'égard de Dieu. Et c'est ça hein, sur lequel achoppent les pharisiens. Que Jésus réclame qu'on lui fasse confiance, comme Dieu a demandé de faire confiance à Abraham, à Isaac, à Jacob, à Moïse, à tous les prophètes, ça c'est trop pour les pharisiens. Vous voyez, or c'est ça, entrer dans la révélation que le Christ nous donne de Dieu, c'est commencer par recevoir ce qu'il nous donne dans la foi. Donc encore une fois, pas d'abord en comprenant. Pas d'abord même en cherchant à comprendre. Mais en commençant par écouter celui qui me parle et en recevant ce qu'il me dit. Après, je pourrais essayer de comprendre. Vous savez, ça arrive de temps en temps, quand vous avez des discussions un peu animées, où vous ne regardez même plus celui qui parle. L'important, c'est de répondre à l'argument. Ça devient rapidement bête, ces discussions-là. Parce qu'un argument appelle un argument, vous voyez, ça finit en match de ping-pong verbal, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Pourquoi ? Parce qu'on a oublié de regarder celui qui parle. Et souvent, que si on écoutait celui qui parle, on dirait beaucoup moins de choses. Parce qu'il y a des choses, ça ne sert à rien d'en discuter. Vous voyez ? Prendre conscience de la personne qui vous parle, ça économise beaucoup de bavardage. Bien, c'est ce que Jésus réclame. Les pharisiens, eux, ce qui les intéresse, c'est le contenu de l'enseignement de Jésus. Jésus dit, moi, je ne vous donnerai pas de contenu si vous ne commencez pas par me recevoir dans la foi. Et je crois que c'est important pour voir, vous voyez, encore une fois, la manière dont on entre dans la révélation du mystère de Dieu. On la rentre en écoutant Jésus. C'est pour ça qu'on ne peut pas être chrétien sans la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. On peut être touché par le Christ sans la parole de Dieu. Comme saint Paul sur le chemin de Damas. Mais on ne peut pas grandir dans la foi sans la parole de Dieu. Ou sans quelqu'un qui nous la donne. Vous voyez, je veux dire, qui soit médiateur entre nous et la parole de Dieu. Alors, Jésus reprend, parce que Nicodème, évidemment, est un peu perturbé. Comment un homme peut-il naître une fois qu'il est vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître ? Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer au royaume de Dieu. » Donc, entrer dans le royaume de Dieu et voir le royaume de Dieu, c'est la même chose. ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, c'est la meilleure, ne t'étonne pas si je t'ai dit, il y a vraiment de quoi s'étonner pourtant, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Oui, relisez, ayez Abraham derrière. Tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. Donc on voit bien, je ne vais pas vous relire l'ensemble du discours de l'enseignement à Nicodème, mais Jésus fait clairement comprendre qu'au fond, il s'agit de redevenir comme un enfant devant Dieu. Et que tant que je n'ai pas une attitude d'enfant et d'écoute de Dieu comme un enfant, mais pas en redevenant un enfant de manière infantiliste, c'est-à-dire avec la petitesse de l'enfant, vous voyez, avec la vulnérabilité de l'enfant, je ne peux pas recevoir ce que Jésus a à me révéler sur Dieu. Donc c'est très beau de voir que les conditions d'entrée dans la révélation de Dieu sont beaucoup plus exigeantes encore dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien. C'est la grâce du baptême d'ailleurs. Tant que je n'ai pas une attitude de petitesse évangélique, je suis hermétique à l'évangile. Enfin, je peux la recevoir humainement, si vous voulez. Et donc, vous voyez, on voit bien encore une fois que la lumière sur le mystère de Dieu est conditionnée par la petitesse et l'abandon dans laquelle je la reçois. Ce qui est nécessaire au philosophe, c'est la pénétration de l'intelligence et le réalisme dans l'accueil du réel et la capacité de concentration, puis un peu de logique. Hein, c'est les qualités de l'intelligence philosophique. Aux croyants, ce n'est pas ça du tout qu'il est demandé. C'est d'abord la petitesse. Et à l'intérieur de cette petitesse, c'est clair, l'éveil de son intelligence, l'abandon et l'éveil de son intelligence. Essayez de vous concentrer une fois beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'écriture, vous verrez que ça n'avance pas beaucoup. Si vous essayez de lire l'écriture comme on lit un texte d'Aristote, ça ne marche pas. C'est très intéressant philosophiquement, hein. Il y a des choses merveilleusement intelligentes. Mais ça ne vous nourrit pas, du point de vue de la foi. Et Jésus ajoute, hein, toujours dans ce premier enseignement donné à Nicodème, en vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons et nous attestons ce que nous avons vu. Mais vous ne recevez pas notre témoignage. Donc ce que Jésus ajoute, c'est que il s'agit de recevoir le témoignage qu'il va donner de ce qu'il voit. Donc oui, c'est très beau comme expérience. Il s'agit d'entrer dans le regard que Jésus a, lui, sur Dieu. Si vous ne croyez pas quand je vous dis les choses de la terre, quand je vous dirai les choses du ciel, comment croirez-vous ? Vous voyez, on commence à voir la finalité de l'Alliance. C'est qu'il nous soit dit les choses du ciel. Que Jésus puisse nous parler du ciel. Et que nous puissions entrer dans le regard qu'il a sur le ciel. C'est ça la foi. La foi, c'est participer à la contemplation que Jésus a du ciel, a du mystère du Père. Nul n'est monté au ciel, hormis celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est au ciel. Comme Moïse éleva le serpent au désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que tout homme qui croit ait par lui la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Là, vous avez tout l'évangile de Saint Jean, uniquement dans ces deux versets-là. De 13 jusqu'à la fin d'ailleurs, sur le jugement c'est la même chose. Mais dans l'enseignement de Nicodème, il nous est présentement révélé que, par avance, hein, que le lieu où Jésus va nous faire entrer dans ce royaume, c'est la croix. Vous voyez, à l'intérieur de l'évangile, il nous est dit clairement par Jésus que le lieu de la révélation, le lieu où nous avons à recevoir son témoignage, le lieu où nous entrons dans son mystère, le lieu où nous entrons dans sa vie, le lieu où ce qu'il doit nous révéler de Dieu nous sera révélé, c'est le mystère de la croix. Puisqu'il est dit,
Ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que tout homme qui croit ait par lui la vie éternelle. Donc le lieu de l'exercice de la foi, c'est le Christ crucifié. C'est ce que souligne beaucoup le Père Philippe en disant que le prologue de Saint Jean, il pense que c'est la contemplation de la Vierge Marie au pied de la croix. C'est-à-dire que la révélation du Verbe de Dieu, vous voyez, est quelque chose qui est découvert, enfin oui, qui est reçu par la Vierge Marie dans le mystère de la croix. C'est vrai que toute la tradition dit que le lieu, le livre de la révélation, son cœur, c'est le mystère de la croix. C'est là que tout est donné. Les pères de l'Église disent la chair comme la chair du prédicateur, la chair de prédication, le lieu le plus noble de la prédication de Dieu à l'égard de son peuple, c'est la croix. Donc c'est là que l'enseignement, que la révélation de la lumière sur Dieu est la plus plénière. Et ça n'est que la croix. Après, il y en a. Vous voyez, je veux dire, c'est pas les apparitions, c'est pas la Pentecôte, c'est pas l'enseignement de l'Église. Vous voyez, jusqu'au retour de Jésus, c'est la croix. Donc le lieu, d'ailleurs, c'est ce que dit Saint Jean. Le lieu où il faut regarder dans la foi, c'est la croix. Jean dit même que c'est la blessure du cœur, puisqu'il dit celui qui a vu rend témoignage et il sait qu'il dit vrai pour que vous aussi vous croyez. Chapitre 19. Si vous passez directement de ce qui est dit à Nicodème au chapitre 19, verset 35, celui qui a vu en rend témoignage, un authentique témoignage, et celui-là sait qu'il dit vrai pour que vous aussi vous croyez. Vous voyez, Jean dit clairement que le lieu de l'exercice de la foi, c'est la blessure du côté de Jésus. Jean, lui, il a cru au tombeau vide. C'est très beau, hein. Jean, lui, il le dit, il vit et il crut. Donc, il est bien placé pour le savoir. Au premier moment où il a exercé, où au fond, j'allais dire, son intelligence est entrée pleinement dans un acte, enfin, est entrée dans un acte de foi plénier, c'est au moment du tombeau vide. C'est ce qu'il dit. Mais il nous dit que le lieu où nous avons à entrer dans le mystère de la croix, c'est la blessure du côté de Jésus. Ce qui est peut-être une manière discrète de dire que c'est là que la Vierge Marie y est entrée. Si, il faut comprendre. Oui, je pense qu'on ne va pas développer, hein, parce que, encore une fois, ce n'était pas le but de la session de vous parler du mystère de la Sainte Trinité. Mais c'est important de voir que, encore une fois, si. Oui, j'allais presque dire, si l'expérience philosophique qui permet. Enfin, si l'expérience. Si le regard philosophique qui permet d'entrer dans la découverte de l'être premier, c'est le regard sur l'être. Le lieu que le croyant doit regarder pour découvrir le mystère de la Sainte Trinité, c'est le mystère de la croix. Alors, vous voyez, c'est pas un lieu de métaphysique chrétienne, mais j'allais dire, c'est il a à contempler celui qui est dans le mystère de la croix. Donc ce qui nous est dit dans l'Ancien Testament sur Dieu révélé à Moïse, ce qui nous est dit sur la sagesse, c'est à la lumière de la croix qu'il faut le lire, pour nous. Tout ce qui nous est dit sur Dieu dans l'Ancienne Alliance, le mystère de la miséricorde de Dieu, le mystère du pardon, tout ce qui est dit par Jésus dans l'Évangile, il faut le relire face à la passion du Christ. Et face au Christ crucifié et face à la blessure du cœur de Jésus. En comprenant que c'est là, vous voyez, alors c'est très beau parce que la croix, ça ne se comprend pas. On y rentre. Et on n'y rentre jamais seul, on y rentre parce que la Vierge Marie est là. Parce que le seul qui soit rentré, c'est la Vierge Marie, c'est Jean parce qu'elle était là. Mais c'est un mystère d'attraction, la croix, c'est pas un mystère d'explication. Mais à l'intérieur de cette attraction, et déjà pour être attiré par le mystère de la croix, il faut vouloir le regarder comme Jésus l'a regardé. Et pas comme nous on le ressent. Vous voyez. Notre vécu de la croix, ça n'a aucun. Enfin, ce que la passion nous évoque. Ça n'a aucun intérêt. Jésus a dit aux femmes de Jérusalem qui étaient émues et qui pleuraient sur lui, vous feriez mieux de pleurer sur vous. Alors quand on s'émeut, vous voyez, sentimentalement de la passion, il nous dit la même chose. L'important, ce n'est pas ce que ça nous fait,
L'important, c'est le regard de Jésus sur sa passion. C'est la seule manière, d'ailleurs, de supporter la lecture de la passion. Sinon, vous voyez, c'est très... c'est sinistre. Vous allez me dire, il ressuscite. Oui, mais la résurrection, c'est un tombeau vide. Puis, il ne faut pas lire la résurrection pour éviter de lire la passion. Parce que la résurrection, c'est la même chose. On n'y rentre pas non plus sans entrer dans la passion. Il n'y a pas d'autre voie d'accès que la passion. Jésus ne nous a pas sauvés par sa résurrection, il nous a sauvés par sa mort. Et saint Paul ne parle pas de la sagesse de la résurrection, il parle de la sagesse de la croix. Et donc c'est important, vous voyez, de voir que notre lieu de contemplation chrétienne, c'est le Christ crucifié, pas d'une manière psychologique ni d'une manière humaine, mais selon le regard du Christ lui-même, donc selon l'intériorité du mystère du Christ. Il faut apprendre à lire dans l'Écriture et à découvrir l'intention du Christ dans sa passion. Parce que ça nous est donné dans l'Écriture. Et de voir que dans ce mystère, le Christ nous attire. Ce qu'il dit, quand je serai élevé, j'attirerai tout à moi. Et c'est à l'intérieur de cette attraction que nous avons à interroger Dieu, d'une manière contemplative. La réflexion théologique, elle est là. Il n'y a pas de réflexion théologique en dehors de la contemplation du Christ crucifié. Donc toute question théologique sur le mystère de Dieu ne peut pas se poser de manière juste en dehors de là. Si elle se pose ailleurs, c'est encore, vous voyez, des croquis, quoi. C'est encore de l'à peu près. Mais le lieu propre de la révélation de Dieu, c'est là. Le vrai buisson ardent, c'est Jésus à la croix. La vraie révélation de la sagesse, elle est là. Vous voyez, c'est pour ça que ça permet de comprendre, vous voyez, ultimement, le décalage, enfin, et là-dessus, Pascal a raison, vous voyez. Pas sur le fait que Dieu est différent, parce que c'est des philosophes ou c'est des croyants, mais la différente manière d'y entrer. Le philosophe y entre par l'expérience de la personne humaine et par la recherche métaphysique sur l'être et sur la personne humaine. Le croyant, il y entre par le mystère de Jésus crucifié, à l'égard duquel il a d'abord à s'abandonner avant de chercher à comprendre. Mais à l'intérieur de cet abandon, il y a quelque chose à contempler. Enfin, vous voyez, pas à comprendre au sens strict d'ailleurs. Ça ne se comprend pas. Mais à contempler, il y a quelque chose à regarder, il y a quelque chose à chercher. Sinon, Jésus ne nous aurait pas dit, pour vous, qui suis-je? Mais c'est très beau aussi, ça, c'est l'autre question. Le théologien, on pourrait voir ça aussi comme ça. Le théologien, c'est celui qui essaye de répondre à Jésus quand Jésus lui dit, qui suis-je pour toi? Pour vous, qui suis-je? Que dites-vous que je suis? C'est même encore mieux. Ce qui ne suffit pas de le porter dans son cœur, il faut réussir à l'exprimer. C'est ça le théologien. Le théologien, il ne se contente pas de porter les choses dans son oraison, il essaye de les dire, donc de se servir de son intelligence jusqu'à ce qu'elle soit. Elle arrive à se plier à la lumière de Dieu pour réussir à exprimer le moins mal possible ce que Dieu est. Donc il essaye de répondre à la question « Pour vous, qui suis-je ?» Vous voyez, c'est comme quand Dieu dit « Je suis ». C'est à l'intérieur d'un lien personnel. C'est pas à l'intérieur d'un problème théologique. Il n'y a pas de problème théologique. Il y a des questions théologiques. Enfin, vous voyez, au sens strict. Parce qu'on est toujours en état de question. On est toujours face à Jésus. Là, la dernière chose, mais je ne vais pas la développer, que vous pourrez regarder, c'est au fond... Comment la manifestation du mystère de Dieu. Donc, ce mystère dans lequel Jésus nous fait rentrer, c'est évidemment son lien avec le Père. Et c'est dans son lien avec le Père qu'il nous révèle l'Esprit Saint. Oui, Jésus ne nous parle pas de la Trinité, il nous y fait entrer, c'est autre chose. Il nous fait entrer dans la vie trinitaire, par la croix. Il ne nous explique pas ce que c'est. Alors, dans un catéchisme, on le définit, oui, on en parle, c'est parce qu'il faut bien. C'est la première prédication, vous voyez. Vous êtes face à un musulman, il vous demande ce que c'est que la foi chrétienne, vous essayez de lui parler du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. C'est pas facile, mais vous essayez. Mais vous voyez, j'allais dire, à la limite, ça ne va pas aller très loin. Parce que vous êtes du côté des mots et des idées. Or, la Sainte Trinité, on n'y rentre pas par des mots, on y rentre par, vous voyez, par une vie. Et les mots, c'est le moyen de désigner ce que je vis. C'est ça, la théologie, c'est la manière de mettre des mots sur ce que je vis. Évidemment, en mettant des mots, ça m'oblige à affiner mon intelligence. Alors je disais, ce qu'il faudrait voir, c'est comment ce mystère de Dieu, il n'est pleinement manifesté, ou plus exactement, il est manifesté selon toutes ses richesses que dans la Jérusalem céleste, donc dans l'Apocalypse. Le dernier lieu de la révélation de Dieu, c'est l'Apocalypse. D'ailleurs, l'Apocalypse, ça veut dire révélation. L'Apocalypse n'ajoute rien quant au mystère de Dieu à ce que Jésus nous révèle. Mais elle le manifeste. Elle manifeste comment ce mystère de Dieu est fait pour se... Je sais pas comment vous dire. Pour devenir la lumière qui va transfigurer l'univers. L'univers est fait pour devenir le vitrail de la divinité. C'est ça que révèle l'Apocalypse. Que vous voyez, la finalité dernière de l'alliance, c'est ça. La dernière. Où est-ce que se révèle ultimement l'alliance? Dans l'Apocalypse. C'est l'alliance entre l'époux et l'épouse, c'est-à-dire que la créature est appelée à devenir le vitrail de la Sainte Trinité. C'est une belle image, l'image du vitrail. Parce que c'est une belle image d'alliance. Vous voyez, vous avez l'épouse et l'époux, qui est l'image de l'alliance, qui est la figure de l'alliance, et vous avez le vitrail, qui est la figure, vous voyez, de la manière dont la lumière de Dieu est appelé à traverser la créature pour se révéler à travers elle. Donc ça, c'est le dernier lieu. Mais on ne rentre dans l'Apocalypse que par le mystère de l'agneau. Ce que dit très clairement l'Apocalypse. Le mystère de l'agneau, c'est Jésus à la croix. Mais vous voyez, le déploiement, la manifestation dernière du mystère de Dieu, c'est dans la Jérusalem céleste. C'est dans l'univers transfiguré, si vous voulez. Et en premier lieu, dans le corps glorifié du Christ, de la Vierge Marie et le nôtre.